Donc, bonjour à tous. L'objet de cette table ronde était de réunir des metteurs en scène de différentes générations et qui ont aussi des rapports tous différents à Lagarce, qui ont monté des textes de son vivant ou et après sa mort, et donc d'interroger à travers eux comment aujourd'hui le théâtre de Lagarce résonne sur nos scènes, s'il y a un déplacement de la façon et ce pourquoi on le montait à l'époque où les premières mises en scène ont été réalisées par d'autres metteurs en scène que lui, et si aujourd'hui les choses se sont déplacées et comment. Donc je vais peut-être commencer par vous les présenter. François Rancillac d'abord. Donc vous avez monté Retour à la Citadelle en 1990. Donc vous êtes parmi les premiers metteurs en scène à l'avoir monté quand il était encore vivant, quoi. Les Prétendants en 1992 et Le Pays lointain en 2001. Et vous avez aussi fait une mise en espace de Nous les héros en 96. Voilà, à ses côtés Philippe Sireuil. Vous avez monté J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne en 1998. Nous les héros en 2000. Et vous avez travaillé avec des élèves à l'école d'art dramatique de Bruxelles sur Le Pays lointain. À ma droite, Rodolphe Dana. Donc, toi, tu as travaillé sur Dernier remords avant l'oubli. C'était une mise en espace, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, en 2005. Et Rodolphe Dana est en train de préparer, enfin, de répéter Le Pays lointain qui sera créé au mois de novembre à la ferme du Buisson. Olivier Pie, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez été acteur dans Le malade imaginaire mis en scène par Lagarce. Et ensuite, vous avez monté Nous les héros avec les acteurs de... certains des acteurs de la compagnie de Lagarce.
Sa distribution.
Voilà. Et enfin, François Berreur. C'est pareil, vous avez fait partie de la compagnie de Lagarce pendant toute la durée du théâtre de la Roulotte. Et vous avez mis en scène Vague souvenir de l'année de la peste.
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Alors non.
J'ai mis en scène Le voyage à la haie.
Voyage à la haie.
Music Hall, Le bain et Les règles du savoir-vivre.
Voilà. Et donc, et une trilogie qui réunissait Music Hall et les deux récits.
Voilà.
Voilà. En 2001. Donc, j'ai demandé juste à François Berreur de lire un petit texte que Lagarce avait écrit au moment de la création de son spectacle intitulé Les solitaires intempestifs et qui résume, qui est un regard que Lagarce porte sur sa génération à lui et qui, voilà, pourrait être une source de discussion pour les metteurs en scène.
Nous avons 30 ans. Nous croisons parfois quelques gamins qui nous disent de ton temps. Nous sommes nés à la fin de la guerre froide. Nos parents ont l'âge de Brigitte Bardot, Johnny Hallyday et Pierrot le Fou. Ils auraient l'âge de Jean Seberg, si elle avait voulu. Nous sommes les petits frères des fameux enfants de Marx et de Coca-Cola, et nos écoles sont restées fermées pendant le mois de mai 1968. Nous sommes devenus, sans nous en rendre compte, les aînés de la génération morale. Nous faisons l'amour en pensant à la mort, et nous sommes inquiets de la paix. Nous sommes Fabrice à Austerlitz, nous ne voyons rien des batailles et des réalités du monde. Nous sommes amusés de notre propre nostalgie, nous sommes nourris de nos livres et des livres de ceux qui nous précédèrent, nous aimons les chansons qui nous parlent de chansons et les films qui nous parlent de cinéma. Nous marchons paisiblement dans la peur et la beauté des catastrophes ou des utopies les plus terribles, nous ne sommes faits que des souvenirs qu'on nous inculqua, nous ne sommes pas des références.
Je trouvais que ce texte était intéressant parce que il donnait à la fois une définition historique de la génération à laquelle appartenait Lagarce et en même temps on voit bien que ce qu'il en dit excède une définition juste historique, que c'est une définition identitaire et qu'en plus de tout ça, ça brasse beaucoup de thèmes qui sont propres à l'écriture de Lagarce, notamment le rapport à la mort, à la morale, à l'utopie, à la guerre. Et aux souvenirs, ainsi que la mise en abîme esthétique. Donc le théâtre de Lagarce, c'est aussi un théâtre qui parle beaucoup du théâtre. Et donc je voulais savoir, par exemple, François Berreur ou Olivier Pie et François Rancillac, vous êtes à peu près de la, grosso modo, de la même génération que Jean-Luc Lagarce.
Ah bah non.
François et moi. Les ouais. François.
Les François. François Ranciac, par exemple, est-ce que quand vous avez monté le texte en 1990, c'était aussi pour ces raisons-là, parce que ça racontait une époque, une génération qui était la vôtre?
C'est vrai que moi je suis né en 63, donc moi j'ai voté pour la première fois en 80 que Jean-Pierre Anne évoquait tout à l'heure. Je pense donc que je suis un peu plus jeune que Lagarde, mais j'ai un peu ce que je retrouve là dans ce texte dont je me souvenais plus, j'avais lu il y a longtemps, mais il est vraiment incroyable. C'est ce que j'entends, moi, c'est le sentiment d'arriver trop tard. C'est-à-dire d'une génération, effectivement, où on nous a un peu raconté mai 68, on nous a un peu raconté la Révolution, on nous a un peu raconté le monde qu'on pouvait changer, et on arrivait quand même, enfin, c'est très personnel, même si c'est très banal de dire, moi j'ai l'impression d'être arrivé à un moment où on nous a dit « bougez plus, on s'occupe de tout, on va vous changer le monde pour vous », et puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc j'ai l'impression que dans le théâtre de Lagarce, oui, peut-être qu'on retrouve une génération qui est avec des personnages qui n'agissent pas, qui ne peuvent que raconter pourquoi ils auraient aimé agir et pourquoi ils n'agissent pas. C'est-à-dire des gens qui ont le sentiment que tout est déjà fait, d'une certaine façon tout a déjà été écrit, et que maintenant on est à une époque où on ne peut plus que gérer le réel, mais qu'on ne peut pas le transformer, et que du coup on ne peut que expliquer pourquoi, encore une fois, faire le commentaire de pourquoi on n'a rien fait de sa vie, pourquoi on la vit quand même une sorte de grand fiasco lamentable, alors que ce qui est très important pour moi, je pense que ces personnages ont tous eu un rêve. C'est-à-dire que ces gens-là ont rêvé de changer le monde, ils ont rêvé de vivre avec un grand V, ils ont rêvé de, je sais pas quoi, de tomber amoureux, de vivre des grandes amours passionnelles, d'écrire des romans, d'être de grands artistes, de peut-être de faire du théâtre, enfin, je sais pas, de changer le monde, j'en sais rien. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et j'ai l'impression qu'on ne peut du coup que commenter ça. Parce qu'on n'est pas dans l'histoire, parce qu'on est incapable de modifier l'histoire, puisqu'on est incapable même de raconter des histoires valables, enfin des histoires avec des péripéties, on ne peut que raconter pourquoi on ne peut plus raconter des histoires. Je trouve que la lecture de l'histoire d'amour le dit, c'est évident. Voilà, alors est-ce que c'est le propre d'une génération? Peut-être, enfin on a ça chez Stendhal qui était cité, on a, enfin, c'est peut-être aussi le propre d'un âge aussi, peut-être, j'en sais rien. Hein. Des 20-30 ans, enfin je sais pas.
Oui, François peut-être.
Ah, moi, je suis pile poil dans la génération.
Non, mais par exemple, quand on entendait tout à l'heure le directeur de l'université dire que ça lui avait, en tout cas, lui donner un regard sur sa génération de voir nous les héros, oui. Je trouve ça assez intéressant.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais, le fait d'être dedans, c'est plus difficile parce que on voit moins bien. Voilà. C'est vrai que, on n'a pas eu cette chance de participer à des grands combats, et c'est vrai que c'est très présent, cette chance ou cette malchance, je ne sais pas, mais en tout cas cette absence de combat, cette d'arriver avec ce pressentiment très fort que les utopies ça marcherait pas, et que ce combat pour les utopies venait d'être mené il y a 10 ans. Et c'est vrai, moi, je ressens très fort cette phrase-là, puisque 68, pour moi, je me souviens très bien, c'était vraiment 3 semaines de vacances à la fin de l'école primaire. Voilà. Donc ça, je pense, c'est une chose très, très forte, et surtout aussi, théâtralement, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu avec Jean-Luc théâtralement, de cette génération, c'est un théâtre qui était aux mains, à tout niveau, autant artistique que de production, de la génération de 1968.
Et qu'il l'est toujours.
Et qu'il l'est toujours, mais bon, les choses bougent, voilà. Donc c'est très fort, autant, je dirais, historiquement, que réellement, au concret, mais ça dépasse. C'est-à-dire, ça va de la sphère intime à la sphère sociale, voilà, à tout point de vue. On a été, alors je dis on, donc d'une aventure vécue en parallèle avec Jean-Luc Lagarce, on a été vraiment confronté en permanence à ces horizons bouchés. Voilà, ce qui fait que le rêve ne passait pas par le changement du monde. Voilà. Et je crois que c'est aussi ce regard du coup qui se retourne sur l'intime et l'interrogation sur le pourquoi de notre histoire, le pourquoi de nos vies, le pourquoi de nos amours, pas le pourquoi de nos amours, mais donc c'est pas le pourquoi des amours, les amours c'est différent, c'est nos amours avec qui, comment, dans quelle histoire. Voilà, c'est très différent. Et je pense que c'est cette confrontation de l'intime au social. Et puis après, pour revenir à Jean-Luc, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est quand même aussi quelqu'un qui avait une formation philosophique. Donc il y avait toujours cette confrontation permanente et dialectique entre l'intime, l'amour, le plaisir de la vie et puis le sens de cette vie.
Oui, je pense que c'est assez juste de replacer l'écriture de Jean-Luc dans un contexte historique qui est une époque finalement bien définie et assez courte. C'est l'époque où on croit à la victoire du capitalisme. Ça a duré très peu. Entre la fin de la guerre froide, si on peut dire, et les Twin Towers, il y a une époque où on croit à l'absolue victoire du capitalisme. Et il y a une différence, alors qui n'est pas exactement générationnel, mais qui se joue à quelques années, parce que je crois que Jean-Luc se vivait comme une génération d'entre-deux. C'est un petit peu le cas de la génération de François Tanguy, par exemple, aussi. C'est-à-dire la génération qui, d'abord, croit à la victoire du capitalisme, ce qui est une première erreur, mais surtout croit à l'importance de mai 68, qui pour moi était aussi une erreur. C'est pas la première génération qui dit « Ouais, mais finalement, en mai 68, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ce qu'il y a de troublant, c'est de voir que la génération de Jean-Luc, et par lui, par son écriture, est en train d'établir de véritables révolutions fondamentales dans la société, le rapport à la maladie, le rapport évidemment à l'homosexualité, aux homosexualités, c'est-à-dire que on a là vraiment un des premiers auteurs queer, et c'est une véritable profonde révolution, et pas une révolution qui dure un mois. Une détonation profonde qui sape absolument les piliers, les fondements de la bourgeoisie, comme n'a pas su le faire 68. Donc c'est assez extraordinaire de voir que le mode de masse, le mode de politique, le mode politique s'était transmué vers une autre forme d'action, dont l'écriture poétique est une part. Donc je crois qu'on aurait tort de le voir que comme un nostalgique des idéologies perdues. Il est aussi celui qui, par son geste, patiemment, montre que cette génération-là, au contraire, est en train de laisser sa marque.
Rodolphe Danel, peut-être justement toi qui arrives un petit peu après tout ça,
oui.
Est-ce que tu as l'impression que dans ton travail, dans ton abord de l'œuvre, ça résonne aujourd'hui? C'est une parole, en tout cas, que tu as envie de faire passer, c'est ce que disait Olivier Py.
Pas du tout. Non, parce que peut-être parce que c'est pas ma génération et c'est pas quelque chose, moi, qui m'a comme ça sauté aux yeux. Enfin, c'est moi, je me suis d'abord intéressé parce que j'ai découvert assez tard son écriture et c'est avant tout son écriture, moi, qui m'a touché, et les rapports humains qu'il met en scène dans son écriture, et enfin notamment cette pièce là je connais pas encore toute son œuvre, mais en tout cas dans Le Pays Lointain et dans, comme dans Juste la fin du monde, comme dans ses dernières pièces, c'est cette façon là qu'il a de rendre nécessaire, je dirais, sa parole et comment les acteurs s'en emprennent pour essayer de la rendre physique comme ça, qui a priori pourrait être très belle, très élégante comme ça, la lecture très très réfléchie, très effectivement philosophique, presque didactique, et comment on s'en empare pour la rendre très humaine et très très vivante. Voilà, tout simplement, c'est son histoire, enfin c'est cette histoire-là qui m'a touché par-dessus tout, quoi, les rapports humains qu'il met en scène, et Et comment ces rapports humains sont modifiés par la présence de la mort, et comment ça rend évidemment toute parole presque sacrée et vivante, absolument vivante, alors que toutes, enfin en tout cas ces dernières pièces sont baignées dans cette atmosphère qui sont baignées par la mort, quoi. C'est ça qui m'a frappé, et puis son humour aussi derrière tout ça, quoi.
Philippe Siret, je sais que peut-être pour rentrer un peu plus au cœur de, ou en tout cas articuler cette notion de génération, vous avez monté J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, où pour le coup la génération est au cœur même de l'œuvre, puisque c'est l'histoire d'une famille. Chaque personnage est présenté par sa place dans la famille, donc on a la mère, l'aînée, la seconde et la plus jeune. Donc j'ai l'impression aussi que, indépendamment d'une inscription historique dans une certaine génération, la question de comment on trouve sa place dans une famille, dans le monde, sa place aussi dans certaines pièces, même géographiques, sur un plateau de théâtre, travaille beaucoup son écriture.
Oui, enfin, comment dire ça ? Moi, ce qui m'a touché chez Jean-Luc Lagarce, c'est... A priori, comme ça, c'est son écriture, quoi. Je n'avais pas lu ça avant. J'ai monté, donc j'étais dans ma maison, et c'est assez rare parce qu'en général, quand on aide à la création d'une pièce contemporaine, en général, on participe aussi à son embaumement. En tout cas, en Belgique francophone et en France, ça me paraît être souvent le cas. On crée une pièce, puis on la laisse tomber, on ne la remonte plus jamais. Ça se passe pas comme ça en Allemagne. Jean-Luc Lagarce, heureusement, est en train d'échapper à ça. Mais Coltès a failli passer à un moment donné de l'autre côté, parce que la prégnance des mises en scène de Chéreau était telle que, sans doute par, je sais pas, timidité ou autre, on n'osait plus, en tout cas ici en France, remettre Coltès sur le métier. Lagarce échappe à ça. Et moi, j'étais dans ma maison en scène alors que Nordet venait de le faire à Paris et que Jouanneau l'avait fait à Genève. Donc dans trois pays francophones en moins de 12 mois, J'étais dans ma maison et était à l'affiche de trois théâtres différents. Pour moi, c'était comme une rencontre d'un autre type, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, après des temps où, me semble-t-il, l'écriture dramatique... avait travaillé une écriture de la raréfaction, on avait tout à coup une écriture du trop-plein, qui est belle, et qui vient aujourd'hui affirmer en plus que le théâtre, contrairement à ce qui s'écrit aujourd'hui beaucoup dans les théâtres privés français, et qui est à la mode à la vitrine des libraires, une écriture qui se veut une écriture, quoi, comme Racine en est une, comme Coltès en est une, comme Claudel en est une, comme Marivaux en est une. Et moi, ça m'a beaucoup suscité, quoi. C'est ce que je peux dire d'abord. C'est évidemment, les thématiques, elles sont nombreuses, mais je crois que c'est Céline qui disait qu'en France, il y avait beaucoup d'écrivains, mais qu'il y en avait eu deux qui avaient du style, c'était Proust et lui. Alors, c'est un peu... comment dire ça ? C'est un peu intempestif que de dire ça, mais c'est vrai que quand vous êtes face à un texte de Lagarce, vous êtes face à la fois un continent et quelque chose dont je trouve d'extraordinaire, on l'a entendu encore tout à l'heure dans la lecture, c'est que je connais pas tous ces textes, mais j'en connais maintenant une bonne partie, j'ai toujours l'impression que ce sont des œuvres ouvertes. C'est-à-dire que on peut y entrer, et on peut y revenir de façon très très différente. Et je pense que c'est ça la matité en devenir d'une grande écriture, enfin, d'une œuvre. C'est que je pense que, puisque vous parlez de génération, il y a autour de la table, je dois être le plus vieux, je sais pas. J'ai 53 ans, voilà. Des générations très différentes qui s'intéressent à cet écrivain-là. Et je pense que c'est d'abord parce que c'est une œuvre ouverte, et puis parce que il réussit un pari quand même, qui est de trouver la bouture entre le singulier et le collectif. Et ça, pour moi, c'est une chose très très importante. C'est-à-dire que, après toutes les errances dues à la valorisation du mouvement collectif, on est tombé dans une autre sorte d'errance qui est l'interrogation permanente du sujet, de telle façon même à ce que ça devienne totalement narcissique et nombrilique. Et je trouve que Lagarce, il évite cet écueil-là. Et pas uniquement dans les pièces de la fin. Je pense tout le temps dans les pièces, il y a cette œuvre ouverte, quoi. Emprise sur une certaine réalité française, en plus. Je crois que c'est un, je sais pas si c'est dû à Besançon. Je connais mal le Doubs, mais, et le Jura, mais on sent quand même qu'il y a on sent que c'est pas écrit à Paris. Enfin, je sais pas, il y a du terroir, comme on dit chez moi. Enfin, il y a de la terre, quoi. Il y a de la tourbe. Et je crois, sous une apparence d'une grande élégance, légèreté, élégance. J'aime ce mot-là. Même dans les pièces les plus noires, il y a une forme d'élégance. Enfin, je veux dire, la mort est dédramatisée, par exemple. La mort n'est qu'un voyage et suppose un retour. Et ça n'a rien de mystique. C'est une façon de se comporter face à la vie. Voilà. Moi, j'ai pu croiser qu'une seule fois Jean-Luc Lagarce, c'était aux rencontres de la nouvelle mise en scène, ça date, hein. Aux rencontres de la nouvelle mise en scène à Dijon, là où Stéphane Braunschweig était aussi, et je pense que Jean-Luc était déjà malade, et il avait à la fois une façon d'affirmer les choses, tout le temps avec une retenue et une élégance. Et je retrouve ça dans son écriture. L'affirmation d'un univers d'écriture fort, d'une prise en charge du réel et en même temps une façon détachée, calme, de dire les choses. Et moi, c'est ce qui me requiert.
Oui, je trouve que c'est très très juste de parler de terroir, si ce n'est que, je pense, dans l'écriture, c'est plutôt de la province. Pas du tout pour vous contredire, hein. Parce que je crois qu'il n'y a pas de fond paysan dans l'écriture, mais c'est la province. Mais par contre, c'est juste que ça a lieu. C'est ce lieu particulier de la province. Et Jean-Luc avait répondu à une journaliste, quand on avait fait cette lecture à Beaubourg de Juste la fin du monde, tu t'en rappelles, et on lui avait dit, est-ce que votre écriture est une écriture du doute? Bon, c'était pas si mal vu, hein, finalement, c'était vrai. Est-ce que, non mais c'est vrai, c'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, donc c'était il y a 15 ans, c'était pas mal vu. Est-ce que ça vient de vos études de philosophie? Et il avait répondu, non, ça vient surtout du fait que je vis en province. Alors, c'est une bonne blague, et comme toutes les bonnes blagues, évidemment, c'est profond. Et moi, j'arrête pas de réfléchir à cette blague, parce que moi aussi, je suis un petit provincial. Je suis pas un provincial ouvrier. Je crois que ce qui fait le terroir, c'est qu'on a quand même, on a ce cas, si on peut dire que la gauche, que la décentralisation, que l'utopie, et pour le coup, celle-là, c'était pas une utopie morte en 68, l'utopie de la décentralisation appelée de ses voeux, c'est-à-dire le type qui retourne une mobilette chez Renault et qui écrit, pas aussi bien évidemment, mieux que Marguerite Duras, et qui est joué à 21 ans, et qui est monté par la Comédie Française. C'est-à-dire le cas comme ça de victoire de la décentralisation culturelle, on l'a chez ce type-là. Ce qui est totalement fou et paradoxal, mais c'est un autre sujet. C'est pourquoi après il y a une éclipse de presque 20 ans, parce que bon, ça finalement ça c'était trop beau pour être vrai. Alors, j'ai une petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Je vais pas monopoliser la parole, mais c'est que c'est cette histoire de doute. Je trouve ça vraiment pas con. Le doute, il est aussi inscrit historiquement, d'abord dans la modernité, mais si on peut dire dans le post-beckettisme, parce que les deux premières pièces, je les connais pas bien, mais les deux premières pièces, c'est vraiment du mauvais sous Beckett, néo-Beckett, voilà. Mais ça part donc de l'absurde, c'est-à-dire ça part d'un postulat qui est que la parole ne peut pas atteindre l'altérité. Qu'on n'est pas sauvé par la parole, qu'il n'y a plus aucune chance dans la parole, et c'est pas tout Beckett, hein, finalement. Bon, c'est le monologue de Lucky qui tient tout Beckett, c'est-à-dire que la parole est inefficiente. Et toute la modernité se crispe à cet endroit-là. Alors Jean-Luc, c'est quand même un enfant de son siècle, quand il commence à écrire, il part de là. Et cette parole est donc d'abord un doute sur la parole. Une interdiction de lyrisme. Si le lyrisme, c'est quand on commence à croire à la capacité de la parole à dépasser la communication. Mais petit à petit, ou même assez vite après ces deux premières pièces, il inverse les polarités et ce doute sur la parole devient une parole du doute. Cette interdiction de lyrisme devient un lyrisme de l'interdiction. C'est très étrange parce que c'est vraiment alchimique. C'est vraiment de l'ordre de l'alchimie du verbe. Si on peut dire, là, il est le chaînon manquant de la littérature française ou de celle qui, entre celle qui vient et la modernité. Toutes ces petits bidouillages de « est-ce que je dis bien ce que je dis ?» qui mettent en cause d'abord la temporalité. Est-ce que je parle au présent? Est-ce que je parle au futur? C'est un des premiers auteurs qui écrit à tous les temps. Là, il utilise encore quelques passés simples nauséabonds, mais il n'arrête pas de conjuguer les temps. Doute sur l'identité. Est-ce que c'est moi qui parle? Et puis, je parle, mais je suis déjà mort. Mais aussi doute, évidemment, plus politique sur la place. Est-ce que c'est à moi de parler? Est-ce que je peux dire ça? Tous ces doutes-là finissent par faire un chant, qu'on appelle un style, c'est vrai. Alors, c'est extraordinaire, parce que cet ex-ouvrier de chez Renault, malade du sida et somme toute très jeune, arrive à... Il a trouvé la solution à l'enfermement, si on peut dire, à l'enfermement post-Beckettien. Et il la trouve, cette solution, pour le théâtre. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, que grâce à lui, on peut sortir d'une écriture de la disparition, de l'impossibilité de dire, de l'interdit de la communication, etc., à une écriture qui va jusqu'au trop-plein. Et ça, ce sont peut-être les dernières pièces qui ressemblent quand même à des chants d'amour. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la vision que j'ai des choses.
Ce que je rajouterais aussi, c'est que la province, c'est dans notre pays bien centralisé, malgré la décentralisation, c'est qu'on est loin du centre. Et j'ai toujours ce sentiment aussi que dans les pièces de Lagarce, on est loin du centre. Mais évidemment, le centre, dans toutes ces modulations, ces formulations possibles, il y a ces personnages qui vont à Paris, enfin, qui vont à la capitale, comme si c'était là qu'on allait enfin vraiment vivre, alors qu'en province, on ne vivrait pas. Donc avec ceux qui restent et qui attendent, là, pour prendre la conversation tout à l'heure, c'est aussi, je crois, du coup... Pour revenir un peu sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure, des gens qui sont décentrés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils sont, qui ils sont, etc., dans un monde décentré où on ne sait pas quel est le début et où est la fin. C'est-à-dire, alors aussi pour venir sur l'après 68, où on est dans un monde où les grands dessins, comme dirait Monsieur Fabius, sont bien lointains, et il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de ligne de fuite. Donc on est au milieu de quelque chose, mais dans un milieu où il y a, encore une fois, pas de début, pas de fin. D'où aussi ces pièces qui ne sont, où il n'y a pas de début, ou pas de fin, ou des débuts, le début de Retour à la Citadelle, c'est « et à la fin, il arriva ». À la fin de quoi? Enfin bon. Et puis évidemment, la fin de la pièce, c'est « et à la fin, il arriva ». Donc on boucle la boucle et on ne fait que tourner en rond. On est loin de l'origine, toujours dans Retour à la Citadelle, on est très loin de l'état originel, comme là, dans ce qu'on a réentendu dans l'histoire d'amour, on ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine. Est-ce qu'il y a eu une histoire d'amour à l'origine, ou est-ce que ça n'a été que le rêve d'une histoire d'amour, ou que le projet d'un récit, d'une pièce de théâtre, d'un roman, ou est-ce que c'est la représentation à laquelle on assiste, est-ce que les gens qui jouent, est-ce que c'est les vrais personnages? Voilà, il y a une sorte d'emboîtement, où finalement on est au milieu de quelque chose, on est perdu, et encore une fois, comme on est perdu aussi par rapport à soi-même, par rapport à ce, encore une fois, à ce qu'on aurait voulu être. Et je crois que si on parle, ça je suis moins d'accord avec toi, c'est pour essayer de combler ce vide, pour essayer de se justifier, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose de très, de l'ordre toujours du bilan. Il y a toujours le fait qu'à un moment, les pièces, il faut toujours quelque chose qui justifie qu'on ouvre le rideau. Il y a un événement qui fait qu'on est obligé de faire le point, le bilan, de justifier pour qu'ai-je fait durant toutes ces années-là qu'on a entendu tout à l'heure. Et du coup, on se justifie devant quelqu'un qui vous écoute, que ce soit le public, que ce soit quelqu'un qui revient du centre, prétendument du centre. Cette personne, en fait, était aussi perdue que ceux qui sont restés. Mais ça, on le saura pas, on le dira pas, ou on le devine. où il le dira à peine, et on essaye désespérément de se justifier, d'essayer de dire ce qu'on aurait dû être, d'être à l'origine de ce qu'on voudrait être, et comme on en est, et comme c'est difficile, on ouvre une parenthèse, et puis une deuxième parenthèse, et puis une troisième parenthèse, ce qui fait que dans l'écriture même, on se perd exactement dans le sens, exactement comme ces personnages sont perdus en province, perdus dans le sens de dans leur vie, dans un monde qui n'a plus de sens. On se perd exactement dans le sens, exactement comme ces personnages sont perdus en province, perdus dans le sens de dans leur vie, dans un monde qui n'a plus de sens.
Mais aussi dire, dire et écrire, c'est exister. C'est-à-dire oui. que c'est contrairement à ce qu'on peut croire, ou qu'on a beaucoup cru, c'est pas de la littérature, l'écriture de Jean-Luc. C'est-à-dire que c'est exister, je suis vraiment d'accord, c'est très important. Jean-Luc disait toujours, c'est vrai, bon, bah, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que Beckett a dit qu'il y avait rien, et Ionesco a tout cassé. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce que tu disais, c'est qu'il lui dit, bon, bah, j'écris, ou j'existe. Et dans l'écriture et dans la parole, c'est qu'on raconte, même si on raconte des choses, c'est pas la première chose de raconter. Ça raconte après. La première chose, c'est au moment où on prend la parole, on existe. On aime, on communique avec l'autre, on lui dit quelque chose, on cherche. Et c'est vraiment cet acte d'écriture, je crois, qui justement, qui est l'originalité même de son écriture, qui en elle-même est son acte de vie. Voilà, je crois que c'est important parce que du coup, la littérature, elle est derrière et non pas devant, enfin, me semble-t-il. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui vit d'abord. Mmh. Enfin, c'est-à-dire que les mots sont là pour être une... Et ça, je crois aussi, c'est son échec, entre guillemets, on y reviendra avec des archives ou tout ce qu'on veut, mais je crois qu'il y a un échec, c'est terrible, il écrit toute sa vie, il essaie d'écrire des romans pendant des années, des versions qui n'en finissent pas à réécrire, et le théâtre est pour lui l'endroit de la parole existante. C'est-à-dire que je crois qu'il savait pas raconter des histoires. Enfin, quand il racontait des histoires, c'est quand même moins passionnant que quand il écrivait du théâtre, parce que il existait dans sa parole théâtrale. Par exemple, la chose la plus importante de l'écriture de Jean-Luc, je crois que c'est pour ça que c'est passionnant et qu'on n'en a pas fini le tour, c'est que le plus important n'est pas écrit. Le plus important, le plus intime, le plus fort de ce qu'il raconte, c'est pas écrit. C'est pour ça que c'est passionnant de continuer à travailler sur ces textes, parce qu'on se dit, j'ai senti, j'ai cru comprendre quelque chose, et là, j'ai senti. Mais je le trouve pas, puisque c'est pas écrit. Donc, et d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, parce que ça me traverse. Dans son journal, il n'arrête pas de citer les chercheurs de l'IDAO, c'est-à-dire que, bon, je pense qu'il y a quelques universitaires parmi vous, en leur souhaitant bien du plaisir sur l'étude de ces textes. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, pour les chercheurs de l'IDAO, ça va quand même être compliqué, parce que lui, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui lui échappent aussi, et c'est pas un système, et c'est pas, il a pas une chose, il accepte l'idée de pas avoir la main mise intellectuelle sur ce qu'il écrit. Et je crois que c'est une position complexe, ça. Par rapport, alors ce serait un peu long à développer, mais c'est assez passionnant et complexe sur le fait que lui-même n'avait pas vraiment, il avait une intelligence et une évidente connaissance de la littérature, mais il n'avait pas, j'ai jamais entendu, et pourtant j'ai essayé souvent de lui tirer les verres du nez, il n'avait pas de discours sur ses pièces. J'ai jamais entendu tenir un discours sur ses pièces.
Oui, et ce qui est peut-être surprenant, au-delà du style, c'est aussi la forme théâtral, parce que moi je pense que c'est du drame bourgeois. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris la forme au fond presque la plus vulgaire du théâtre, à savoir le drame bourgeois. Si on veut, comme Feydeau prend le vaudeville comme une forme et arrive à en faire un objet à la fois littéraire, philosophique, tout ce qu'on veut, donc lui il prend le drame bourgeois. Ça fait aussi que la génération de 68, il faut pas oublier que si elle était petite en 68, elle est très puissante en 80. La génération de 68, c'est la génération mitterrandienne. Il faut s'étonner de la quasi-censure ou de la loi du silence sur l'œuvre de Jean-Luc, parce que justement, cette génération de 68, elle est au pouvoir. quand Jean-Luc est en décentralisation, enfin, quand nous sommes tous en décentralisation, c'est bien parce que cette génération-là est au pouvoir et qu'elle est totalement indifférente à la naissance d'un nouveau poète, qu'elle n'ira même pas la voir, le voir naître. C'est bien une prise de pouvoir dure des 68 arts dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui qui fait que Jean-Luc peut pas être entendu. Et comme en plus c'est du drame bourgeois, il passe à côté. Alors ce genre là, peut-être parce que tu as raison, tu donnes une clé quand tu dis que c'était pas un grand conteur, enfin que c'est pas un homme qui sait forcément très bien raconter des histoires, que l'aspect récit n'est pas le plus important. Il utilise ce genre-là, mais qui devient aujourd'hui un vecteur incroyable. Parce que le drame bourgeois, c'est certainement la forme théâtrale qui est la mieux comprise partout dans le monde. Et comme nous sommes tous des bourgeois, et tous des petits bourgeois de province, cette forme-là est celle qui passe le plus évidemment la rampe. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un auteur à succès qui fait des drames bourgeois qui sont bien plus que des drames bourgeois.
Juste pour préciser sur les récits, évidemment, je ne parle pas de ces récits qui sont quand même d'une autre forme. Je parlais plus de l'aspect romanesque, hein, quand on parle de raconter, parce qu'évidemment, je trouve que ces récits sont d'une très grande force. Hein. C'est plutôt cette idée de raconter comme on raconterait le roman.
Pas, mais il n'y a pas de romanesque.
Il n'y a pas de romanesque, voilà. Et c'est justement, quand il trouve une voix très particulière, notamment dans les récits, c'est qu'il accepte d'abandonner la forme romanesque.
Bien sûr.
Mais il n'abandonne pas la littérature. C'est ça qui est, je trouve, assez extraordinaire.
Ouais. Il y a le protestantisme aussi qui est là et qui quand même interdit quelque chose, parce que c'est une chose dont on s'amusait beaucoup l'un et l'autre. C'était de confronter évidemment ma catholicité à son protestantisme, enfin notre catholicité, parce que c'était aussi Elisabeth est orthodoxe, c'est encore pire, encore plus flamboyant. Mais ça l'amusait beaucoup, parce qu'il je crois qu'il avait découvert à l'égard de certains de ses interprètes ou d'autres artistes à quel point il avait été marqué.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est un huguenot, c'est un vrai huguenot.
Moi, je trouve aussi que, par rapport à ce qui vient d'être dit sur le drame bourgeois, je trouve, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a plu aussi dans Le Pays lointain, c'est qu'il confronte aussi cette chose-là, vaudevillesque, qu'il écrit très bien, à quelque chose aussi de l'ordre de la tragédie. Je trouve que l'alternance entre les scènes familiales, là où je trouve qu'il nous laisse pas le choix, qu'il faut vraiment les jouer comme des vaudevilles, et en même temps derrière il y a des tirades comme ça, des monologues qui sont, je trouve, d'un autre théâtre. Enfin, moi c'est ça aussi qui me plaisait, c'est que tout à coup il offre ces deux choses là en contraste et que l'une enrichit l'autre continuellement, quoi. Voilà.
Je sais pas si on peut parler de tragédie à proprement parler, hein. C'est pour ça que je parlerais plutôt de drame bourgeois, mais je pense pas qu'il ait non plus vraiment écrit des comédies pures, ou alors c'est comme les comédies de Tchekhov, enfin qui s'appellent comédie, mais qu'on joue pas comme ça. Peut-être que nous les héros, c'est peut-être une sorte, c'est ce qui est le plus approchant d'une comédie délirante. Je suis pas certain qu'on puisse parler de tragédie, même si nous étions confrontés à un corps tragique. Enfin, il y a qu'à voir ces photos épouvantablement morbides, qui en plus maintenant nous suivent de théâtre en théâtre pour nous foutre le moral à zéro. Donc on est face à un corps tragique, mais il n'y a pas de tragique à mon avis parce qu'il n'y a pas de Dieu. Et ça c'est assez unique aussi. C'est une forme d'athéisme un peu étrange. Je dirais, c'est une sorte d'athéisme inquiet, d'athéisme doux. C'est-à-dire que je m'interroge beaucoup sur ce que je crois être finalement la dernière chose qu'il a écrite. Mais François, tu me reprendras si je dis trop de bêtises. Dans Le Pays lointain, c'est aussi dans Juste la fin du monde, puisque c'est la matrice du Pays lointain. Il y a cette scène incroyable que j'ai reprise dans Les Illusions comiques, où il marche sur un aqueduc. J'ai peut-être tout réécrit, hein, parce que je l'ai pas relu depuis 15 ans. Enfin, je le vois marchant sur un aqueduc, et puis il parle d'un cri qu'il aimerait pousser. Pour quelle raison? Probablement à cause de la beauté du monde, puisqu'il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est exactement dans une sorte de corps céleste. Il est au-dessus de la ville. Et face à cette beauté de la ville, vue d'en haut, finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que la position de l'écrivain? C'est quelqu'un qui voit d'en haut et qui quelquefois voit la beauté du monde parce qu'il a décollé. Et il dit que ce cri ne l'a pas poussé. Il se l'est même interdit, je crois. Alors ça, c'est une première chose. Il y a donc, on s'approche de la grâce, puisqu'il y a la beauté du monde. On devrait pousser un cri de joie, et on ne le pousse pas. Et ensuite, il y a le regret. C'est des choses comme ça que j'aurais dû faire. C'est ce cri-là que j'aurais dû pousser. Moi, ça me bouleverse parce que là, il indique ce qu'il aurait été si la mort ne l'avait pas empêché de parler, de continuer son œuvre. Peut-être aller vers ce cri. Ou alors, toute son œuvre, parce qu'il savait qu'il était en train d'y mettre un point final et des points de suspension, toute son œuvre n'est que le regret de ne pas avoir suivi cette intuition. Là, on est à l'endroit d'une honnêteté métaphysique incroyable. Parce que, on voit bien ce qu'aurait écrit Olivier Py. Je jouis, ah, que le monde est beau. Hein. Mais on se demande s'il est tout à fait sincère. On voit bien ce qu'aurait écrit d'autres, que je ne nommerai pas. Décidément, monter sur cet aqueduc ne m'a servi à rien du tout. La ville est aussi moche d'en haut que d'en bas. Hein? Lui, il est à un endroit incroyable, et c'est pour ça aussi, comment dire, qu'on peut s'identifier. Il y a une prémonition, il y a une intuition de ce que pourrait être la grâce. C'est intéressant surtout parce que c'est un protestant qui parle, et que pour un protestant, soit il y a la grâce, soit il n'y a rien. Moi, je m'en fous qu'il n'y a pas la grâce, il y a la littérature, donc on s'en fout. Lui, il y a une idée de ce que pourrait être la grâce, mais il y a quelque chose qui le retient. Et après, toute l'œuvre, c'est une interrogation sur qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu dire la beauté du monde, alors que je la voyais, et si je peux dire que je la voyais mieux que les autres, en enfant génial, dans les choses des pas seulement dans les choses laides, mais aussi dans les choses anodines. Et pourtant, est-ce que ce cri n'a pas été poussé? Est-ce que c'est pas ce chant d'amour à notre, comme tu le disais très très bellement, au fait que nous sommes tous hors du centre, que nous sommes tous des excentriques?
Si, c'est Olivier, c'est exact. Pardon, ce que dit Olivier, c'est exactement le sens de ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une écriture, je crois. En creux, c'est-à-dire cette idée qu'on y met bien chacun. Effectivement, ce que tu racontes là, je trouve, c'est effectivement, tu dis très bien ce que je comprends que tu y mets, mais je pense que c'est aussi notamment ce qu'on a longtemps mal compris après la mort de Jean-Luc sur l'intime. C'est-à-dire cette idée que, quand on parlait du théâtre intime de Jean-Luc, on parlait de son intimité. Mais en fait, je crois que ce qui est totalement faux, c'est l'inverse, c'est-à-dire la qualité de son écriture, c'est d'accueillir l'intime de chacun. Enfin, voilà ce que dit Olivier, je trouve que c'est magnifique, parce que je trouve que c'est, enfin, il met avec les mots dans ce que a écrit Jean-Luc, enfin, l'univers d'Olivier. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans l'écriture de Jean-Luc. Et je crois que pour le spectateur, c'est ça, c'est que chacun peut y mettre soi-même dans l'écriture. Il laisse la place pour chacun.
Oui, il y a dans du luxe et de l'impuissance, j'ai relevé une phrase, moi, qui me parle beaucoup et qui me semble illustrer ce que tu dis, c'est accepter de se regarder soi pour regarder le monde. Enfin, ce mouvement-là, il est pas commun. Et moi, je pense, oui, justement, quand tu parlais de théâtre intimiste, j'aime pas ce terme parce que
je parle de théâtre de l'intime, c'est ce qu'on disait, l'intime de Lagarce, c'est faux.
Mais l'intime, ça conduit très vite au narcissisme.
Oui, absolument.
Moi, je ne lis pas ça dans ces textes-là, jamais. Même dans les textes les plus, comment dire, les plus proches du corps qui était le sien.
Moi, je peux faire un aveu, c'est-à-dire que, au fond, j'ai travaillé longtemps avec Jean-Luc parce que j'étais vraiment drôle, hein, donc on riait beaucoup. Mais au fond, bon, son théâtre, j'ai toujours eu cette impression-là, c'est que je comprenais pas forcément tout, mais il y a un truc que j'étais sûr, c'est que je trouvais qu'il parlait de moi. Alors, c'est... j'ai l'impression que c'est, si j'avais su écrire, il y a plein de choses que j'aurais écrit comme ça. Donc je trouvais que c'était formidable de travailler avec lui parce qu'il faisait des pièces. Et en même temps, je trouve que les pièces, elles parlaient de moi. Voilà, donc c'était agréable et facile, quoi.
Et puis l'intime, c'est aussi une source de fiction, quoi. Chez Lagarce, comme par exemple dans les illusions comiques, c'est-à-dire comment on utilise aussi, comment à partir de là, né de la fiction, né du jeu entre les acteurs, né du jeu...
Oui, mais c'est vrai que ça m'était un peu égal, ça. C'est-à-dire que je trouvais bien, c'était moi, quoi. Enfin, j'étais là... non, mais vraiment, je plaisante pas. C'est... Non, mais je suis d'accord, hein. Mais c'est-à-dire que cette idée de fiction, elle est venue après, parce que... C'est... Bon, après, je vais pas vous raconter trop d'anecdotes, mais... J'en ai entendu pas mal, donc maintenant je suis un peu vacciné, mais bon, en plus on a entendu Histoire d'amour dans ce que j'ai pas entendu, c'est-à-dire que l'idée de la fiction et tout ça, c'est-à-dire que dans le rapport que j'avais à l'écriture de Jean-Luc, en y en travaillant avec 15 ans avec lui, qui était assez drôle, avec Mireille, avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'était que ça nous faisait rire, mais jamais on s'occupait de la fiction. C'est-à-dire que c'était le paradoxe total, c'est-à-dire que il écrivait quelque chose, mais surtout, jamais on se posait la question qui est qui, quoi et quoi, où est la fiction, tout ça. Tout était vrai. Donc, c'est-à-dire que tout était faux, mais tout était vrai. C'est-à-dire que, bon, après, il y a plein de choses qu'on peut écouter différemment, mais jamais on sait pas. Mais je crois qu'on en a déjà parlé avec Jean-Luc, ça nous faisait vraiment rire avec Jean-Luc et Mireille, donc je crois que je peux vraiment les citer. C'est-à-dire que on se foutait complètement de l'idée de ce que ça racontait sur la vérité. C'est-à-dire qu'on c'était vrai, point, barre, voilà. Voilà, c'est que l'idée de la fiction, effectivement, moi je l'ai vécu à l'envers, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, mais ça doit vous faire bizarre sur l'histoire de voir tout ça, par rapport, est-ce que vous pouvez monter des textes de Jean-Luc Lagarce c'est toi qui m'as posé la question, alors j'ai peut-être mal compris, mais par rapport à tout ce que vous avez connu et tout, mais moi pour moi les textes, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai connu de la vie avec Jean-Luc, c'est, tout est exact, mais tout est faux, quoi. Enfin, je suis même jamais posé la question, je crois, parce que sinon c'est à devenir fou, quoi. Puis ça voudrait dire que surtout il a une vérité, et je crois que c'est ce qu'on disait, jamais il donne une vérité, après il s'amuse comme un fou. Mais c'est un truc enfin, je crois qu'on y perdrait sa santé mentale à essayer d'y chercher la fiction. C'est-à-dire, je sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais pas manier le paradoxe par plaisir, mais tout est vrai.
C'est étonnant, c'est presque toujours la même pièce qui est écrite. C'est quelque chose dont on a un peu parlé, mais que ce soit Retour à la Citadelle. Comment ça s'appelle, la dernière nouvelle de la peste,
oui, Vague souvenir
de l'année de la peste, et puis même Nous les héros et Le pays lointain, c'est assez étrange à quel point après les coups d'essai post-Beckettien, mais très 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 vite à 24 ans, il a à la fois son style et ses thématiques et sa forme théâtrale. Et il n'en bouge pas, et ça ne s'assèche pas, au contraire, d'année en année, il arrive à convier le monde à l'intérieur de ce schéma familial. Mais bon, c'est vrai que la famille, ça peut suffire à écrire tout le patrimoine de la littérature dramatique occidentale. Mais ce rapport entre cette histoire du fils qui revient, qui n'arrive pas à dire quelque chose, la confrontation du retour du fils avec la famille qu'il a laissée, c'est presque pauvre au niveau de l'anecdote, et surtout c'est un schéma absolument obsessionnel, dont on peut quand même pas dire qu'il était pas autobiographique, ça c'est certain.
Tout est totalement autobiographique. Non, mais en plus, je crois que c'est vrai. Non, mais...
Oui, c'est faux.
Ben voilà. Non, mais je trouve que c'est vraiment... quand on parle... Forcément, quand on parle de l'écriture de Jean-Luc Lagarce, on y arrive. Mais ça, c'est vraiment... Je pense que beaucoup de gens vont en débattre et tout, mais c'est vrai que c'est impossible de gérer ça, quoi. Parce que c'est sa matière. Donc,
C'est très important d'entendre le titre « Nous les héros » sans aucune ironie. C'est-à-dire que là, l'alchimie du verbe va transformer une existence provinciale ou ironique en sublime. Ça, c'est très important pour pouvoir mettre en scène même les dernières pièces. Je me méfie toujours de l'ironie. Le fait qu'il ait eu de l'humour, qu'il ait fait des études de philosophie et qu'il ait vécu en province ne veut pas dire qu'il faut mettre des guillemets partout dès qu'il apporte une thématique. Hein, que la mort n'a pas des guillemets, que le sublime n'a pas forcément des guillemets. Alors, nous les héros, c'est certainement pas un titre ironique. Une pièce écrite pour la distribution du malade imaginaire qui, avec un poète mourant, traverse la France. Et d'un seul coup, il a la conscience que là, il y a du sublime. Et il y a du sublime aussi parce que il faut replacer ça dans un contexte où les auteurs de théâtre sont totalement, alors pour le coup, vraiment provincialisés, décentrés, transformé en rat de laboratoire dans des théâtres cinq fois plus petits que celui-là. Ces années-là de tout pouvoir de la génération des grands metteurs en scène exégétiques ex-68ards devenus mitterrandiens, c'est vraiment le répertoire et le règne du grand metteur en scène, hein. C'est logique puisqu'il y avait un grand metteur en scène qui dirigeait le pays. Donc c'est ça, c'est le règne de la mise en scène au fond. C'est le plus grand à cette époque-là. C'est pas forcément Chéreau, c'est Goude. C'est vraiment c'est ça, la vie de la culture. La culture est en train de se penser non plus comme la manière de retrouver par l'héritage la pensée et la beauté, mais en train de se penser comme un gigantesque spectacle pour défendre la social-démocratie. Là, la voix qui s'élève, que ce soit celle de Gabilly ou que ce soit celle de Lagarce, la mienne en plus jeune, ce sont des voix qui a priori n'ont absolument aucune chance d'être entendues. On n'est plus du tout à cet endroit-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a presque une pièce sur deux qui est une pièce à partir d'un texte contemporain. C'est une vraie révolution sur les plateaux, mais qui n'est pas passée par une révolution de la mise en scène. Les révolutions de la mise en scène, elles avaient déjà toutes eu lieu, si on peut dire. Là, c'est une révolution dans la place que les metteurs en scène accordent aux poètes. Ça, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, sa biographie, quand même, le révèle, puisqu'on voit que il ne peut pas monter nous les héros parce vous aviez deux dates à Belfort, personne n'en veut. Par contre, on peut tourner le malade imaginaire pendant un an et demi. Donc, ses pairs veulent bien le reconnaître s'il fait du grand répertoire avec une exégèse dramaturgique dont on connaît l'outillage. Si par contre, c'est la parole d'un poète, alors là, elle est exclue. Il s'en étonnait lui-même, d'ailleurs. Finalement, en dépit d'un grand succès de metteur en scène, et c'était pas un très très bon metteur en scène, en dépit d'un grand succès de metteur en scène, le poète restait totalement dans l'ombre. C'est une époque.
Mais après, juste pour dire ça, pour aller dans le sens, puisque demain, il y a Philippe Girard qui lira des textes du journal que j'ai sélectionné, et c'est en boucle aussi sur le théâtre, c'est-à-dire pour dire sur la vérité, puisque l'origine du titre « Nous les héros », c'était la fin d'une adaptation qu'il avait fait du roman, de chronique maritale de Marcel Jouhandeau. Et c'est à la mort, parce que là, on pourrait y passer trois jours, c'est quand, à la fin du livre, quand Élise meurt, Jouhandeau fait un rêve, il passe dans la ville éteinte, avec Élise à son côté, nous, les héros. Voilà. Donc c'est vrai, on peut dire que la Genèse, c'est l'histoire d'amour, si on veut. Mais il a monté Chronique maritale, c'était la fin de Chronique maritale. Et après, voilà, c'est aussi perpétuellement une espèce de boucle infinie, aussi de sens en permanence, puisqu'effectivement, il fait pas nous les héros, mais il fait les règles du savoir-vivre de la société moderne. Voilà. Donc c'est comment on se comporte. Voilà, c'est toujours, il y a toujours un humour permanent aussi sur ce rapport à la vie et à l'histoire. C'est-à-dire où on se dit effectivement, il y a vraiment cette chose de nous les héros en tournée, et c'était vrai, sur le malade imaginaire, mais en même temps, ce n'est jamais qu'une littérature, et je crois qu'on parlera demain, et que ce qu'on croit avoir été écrit pour les acteurs, il avait déjà fait le montage 10 ans plus tôt de préparatifs de la campagne d'après le journal de Kafka. Donc il a ressorti de ses tiroirs vraiment quelque chose qui allait fonctionner. Voilà. Donc il y a cette permanence remise en cause, et en même temps littérature qu'il nourrit autant que la vie. C'est-à-dire que la vie est égale, alors c'est des fois difficile à accepter, mais la littérature est égale à la vie. Il y a une différence évidemment, mais dans ce qu'elle apporte, c'est un livre apporte autant que le sens de la vie.
François Rancillac, par rapport à cette question de l'ironie dans Nous les héros, comme vous avez travaillé aussi Philippe Sérieux tous les dessus, est-ce que vous êtes d'accord? Il me semble qu'il y a quand même un mélange et de tendresse et d'ironie contenu dans cette pièce et dans ce titre.
Oui, oui, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Enfin bon, on va pas faire un débat là-dessus. Ce qui, pour moi, je trouve important, c'est il y a ça aussi, par exemple, le titre du luxe et de l'impuissance. C'est-à-dire comment arriver à mettre une chose et son contraire presque ensemble, et essayer de penser la contradiction. Ce qui me semble très important, une attitude extrêmement moderne. C'est-à-dire, il y a ce moment, je vais citer de mémoire, dans Nous les héros, comme je vais voir ce soir, j'ai un peu honte, mais je sais que, comme il y a la question de l'engagement qui est perpétuel dans la pièce, est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage en quelle la guerre? Mais est-ce que je m'engage en amour? Est-ce que je fais une déclaration? Et à un moment, Max, donc, décide de partir à la guerre. Et tout le monde ricane en disant, mais attends, regarde, t'as des lunettes, tu vas te faire taper sur la tête, et c'est ridicule, un intello à la guerre dans les tranchées, c'est ridicule. Et puis, la mère, ou le père, selon les versions, je sais plus exactement, dit, mais c'est par le théâtre qu'on peut transformer le monde. Et je sais plus qui dit, je crois Joséphine, dit, maman, tu crois ce que tu dis? Et elle dit, oui, je sais que c'est ridicule, mais j'y crois. C'est peut-être pas exactement les bons mots, hein, vous m'excuserez. Mais c'est ça, je sais que c'est ridicule, mais j'y crois. Et il y a ça vraiment dans Du luxe et de l'impuissance, faire du théâtre, raconter, essayer de raconter l'histoire, essayer d'être là, c'est dérisoire, ça sert à rien, et pourtant c'est indispensable. Et comment être dans les deux en permanence? Donc c'est-à-dire comment être très sérieux, c'est-à-dire retrouver vraiment la gravité de ce que c'est que monter sur scène et dire ces mots, de donner la parole à des morts, à des fantômes, parce que c'est quand même beaucoup des... Le théâtre est quand même là où on fait revivre des fantômes, on ne sait jamais s'ils sont vivants ou morts. Et en même temps, c'est rien du tout. En même temps, c'est une chansonnette, et hop là, on s'en va, et puis voilà. Et ça ne changera pas la face du monde. Et pourtant, si on n'y croit pas, on le ferait pas.
Oui, mais si en 92, on avait dit à Georges Lavaudan, Alain Françon et Jean-Pierre Vincent, même réunis, je crois qu'un des grands écrivains du théâtre du XXe siècle, c'est Jean-Luc Lagarce, à cette époque-là, ça aurait été vraiment de l'ironie. Pur.
Ça, je sais pas.
Bah, si.
Enfin, je serais moins tranchant
personne
que toi.
Personne n'y croyait. Mais... Absolument personne n'y croyait.
Non, à la gare, ça, c'est clair. Personne ne le lisait, mais, comment?
Et aujourd'hui, pourtant.
Oui, mais comment on le lit?
Ça fait comme une évidence.
Comme on ne lit pas, enfin, comme le milieu théâtral ne lit pas le théâtre contemporain, patati et patata. C'était d'hier et d'aujourd'hui.
Oui, mais enfin, c'était tout de même pas tout à fait gagné. Elisabeth me racontait quelque chose. Elle me racontait que sur une lettre qui lui avait envoyée, je ne sais pas si c'est la lettre pour la publication des drôles, je ne sais pas, il avait signé par authentification du manuscrit et puis un paraphe, parce que les lettres, évidemment, étaient tapées à la machine. Est-ce que c'est de l'ironie ou pas? Est-ce que ça, parce que ça veut dire clairement, cet objet passera dans la postérité, je t'envoie un objet qui va devenir un objet historique, mais en même temps, est-ce que c'est un jeu là-dessus? Et je crois que c'est une question qui est abyssale, de savoir avait-il véritablement conscience de la place qu'il prendrait dans le monde dramatique et littéraire, parce que l'écart entre ce qu'il était il y a 10 ans et ce qu'il est aujourd'hui est quand même une des histoires les plus extraordinaires de la littérature française.
Mais je crois que la question est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il explique ça à un moment donné, hein, je cite mal, mais il explique que, de toute façon, donc il explique au lecteur que, il passe tout son temps, parce que de toute façon, si personne ne le connaît, on ne le connaît pas. Mais si, c'est toute la question, s'il est à la postérité, donc ça veut dire que tout ça est exact. Donc c'est quelqu'un qui a accepté de consacrer sa vie à écrire, et il a vraiment écrit énormément, mais au cas où il y a de la postérité, pas de problème, il y a consacré sa vie. Donc il assure comme une bête. Il n'a pas eu de doute, il a vraiment consacré. Mais enfin, je sais pas, dans le temps d'un homme, ce qu'il a consacré comme temps à écrire, c'est-à-dire qu'au cas où quelqu'un s'intéresse à ce qu'il écrit, alors là, il y a une œuvre.
Et en même temps,
mais dans les... toute sa vie est...
Et en même temps, dans les journaux, enfin, le peu que j'ai pu lire, il y a un doute permanent. Il dit, je sais pas ça écrire, j'arrive pas à écrire du théâtre.
Non, mais ce que je dis, ça n'empêche pas le doute. On parle sur, justement, sa position ironique ou pas, sur la postérité. Oui. C'est-à-dire, cette idée qu'un jour on le lira, c'est-à-dire qu'on peut consacrer un temps infini, justement, à raconter comment c'était la postérité, et ces doutes en font partie. Parce que de toute façon, au cas où la postérité existe, il faut être là.
De toute façon, la postérité est une pute autant que la mode.
Sur la question, alors à l'intérieur de son œuvre de l'ironie, il y a sans doute de l'ironie. Comme on peut dire que chez Tchekhov, il y a de l'ironie, mais, et moi c'est pour ça que j'ai été vers Lagarce aussi, enfin vers son écriture, c'est qu'il n'y a pas de cynisme. Or, pas uniquement dans votre pays, mais notamment dans votre pays, il y a eu beaucoup à un moment donné, de spectacles qui ne travaillaient plus que là-dessus, sur le cynisme. Ou de pièces qui travaillent sur le cynisme. Or, par exemple, dans Le Pays lointain, même les personnages dont on peut présupposer qu'ils vont à l'encontre de la nature, de l'idéologie, de la pensée de Jean-Luc Lagarce, ils sont magnifiquement... Enfin, ils leur donnent magnifiquement la parole. Et je pense d'ailleurs que sur le plan de l'interprétation au théâtre, c'est un... Comment dire? C'est une lumière qu'il ne faut jamais perdre. Il y a jamais, me semble-t-il, il n'y a pas de caricature chez Lagarce. Jamais. Et quand Olivier Py disait tout à l'heure, c'est l'histoire d'un mec qui rentre et qui ne parle pas, moi je crois que, pas que ce soit par inaccomplissement, c'est au contraire par générosité. C'est pour laisser parler les autres. Et ça, pour moi, c'était, ça reste quelque chose pour moi d'essentiel, quoi. Il laisse parler les autres tout le temps.
Après aussi, ça part
Il les fait se dévoiler.
Oui,
mais... parce que tout à l'heure on parlait de monologue à propos de J'étais dans ma maison. Moi, je lis pas une seule fois de monologue dans J'étais une seule fois dans ma maison. Je ne lis que des situations d'aveu, de confession, de tentatives d'élucidation de son réel, de maquillage du réel. Mais c'est tout le temps des situations qui se passent au moins à deux, si ce n'est à cinq. Il y a pas de monologue chez Lagarce. Il y a tout le temps une parole qui se met en mouvement, mais qui est, comment dire, qui part d'un fondement. Enfin, je sais pas comment dire ça.
Mais l'homme était bon.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Je voulais juste dire sur la parole, parce que souvent dans l'œuvre de Lagarce, on veut qu'il y ait un personnage qui ressemble à Lagarce. Mais par exemple, je vais donner deux exemples. C'est-à-dire, par exemple, il a déclaré à France Culture qu'au fond, sur la femme, on lui dit, mais vous êtes qui? Il dit, mais de toute façon, avec un, parce que c'est que des femmes, vous êtes tout. Mais il dit, de toute façon, moi, je pense que je peux être aussi ma part féminine, donc je suis tous. Et puis, par exemple, sur Le Pays lointain, on prend juste la fin du monde. Louis, le texte de Louis, dans Le Pays lointain, ça vient de le texte de Louis et de l'amant. Donc, c'est-à-dire, Louis et l'amant, c'est exactement la même chose qu'il a séparé en deux. Voilà. Donc, ça veut dire que quand même, l'idée de l'auteur, il faut la relativiser, c'est-à-dire sur le fait que, même, justement, je pense aussi, vous pensez à ça sur Le Pays lointain, juste la fin du monde, Antoine qui a un rôle sublime, je pense que ça a à voir, si on l'écoute autrement, ça a à voir autant avec Jean-Luc que Louis. Voilà. Et je pense que là, c'est un peu ce que j'ai essayé de pointer tout à l'heure, c'est que on y revient tout le temps, c'est ça une force incroyable, c'était cette idée biographique, elle est une fausse piste permanente, quoi. Et on y revient, on a dit, bon non, on a parlé tout à l'heure, et pof, on y revient tout le temps d'une manière ou d'une autre. Et ça, d'une manière, il y a une chose géniale aussi de ça, c'est-à-dire ce rapport personnel à tous les personnages, et surtout pas à celui qui semble être celui de Louis, pas autant que ça. Notamment, par exemple, quand sur le malade imaginaire, bon, après, il lui aussi trichait sur les réponses, mais il disait toujours, quand on disait, vous êtes qui dans le malade imaginaire, il disait toujours, je suis Angélique. Voilà.
Pour revenir sur l'ironie, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je ne sais plus, juste j'ai une idée. Oui, il y a un truc aussi, il y a quelque chose qui bouge, parce qu'on a toujours, on a l'impression qu'il ne se passe rien dans les textes, enfin, par exemple, J'étais dans ma maison, ou d'autres, alors que je crois qu'il y a un mouvement qui se fait, qui va... on va dire du mensonge à la tricherie. C'est-à-dire, je pense que les personnages parlent parce qu'il faut parler, parce que soit parce que enfin il y a une situation qui fait qu'on doit parler, on doit s'expliquer, on doit se justifier, et comme il y a quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose qui n'a pas été vécu, il y a eu un mensonge, un ratage, la mauvaise foi est au travail. Je trouve qu'ils sont quand même très gentiment paranoïaques, comme tout un chacun. Donc on commence par accumuler mensonge sur mensonge pour expliquer que si je suis pas parti, c'est la faute à papa, c'est parce que je devais attendre un tel, il fallait que le frère revienne pour que je parte, parce que je nénénia, ou c'est la faute à la météo, la pluie ne vient pas, enfin, etc. Et comment, parce qu'on vide son sac, parce qu'au bout d'un moment quelque chose s'épuise et qu'on ne fait que tournoyer autour d'un centre, une origine qu'on ne dira pas, qu'on ne peut pas dire, parce qu'il n'y a pas de vérité, et que c'est ouvert, et que c'est là que chaque spectateur peut combler les trous. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire à la fin, c'est que on sait qu'on ne dit pas vrai, on sait qu'on a raté, mais au moins on peut en sourire. Et je trouve que, par exemple, Music Hall, pour moi, est une pièce, c'est une pièce que j'adore, une pièce exemplaire, comme cette fille, qui est censé nous faire un numéro de Music Hall, nous raconte pendant une heure et demie qu'elle est incapable, qu'il n'y a plus le Projo, il n'y a plus le tourne-disque, il n'y a plus les Boys. Enfin bon. Donc on peut que raconter pourquoi on fait semblant de faire un numéro de Music Hall, et puis à la fin c'est, et hop, trichons jusqu'aux limites de la tricherie. Et je trouve que c'est aussi un hommage au théâtre, magnifique, parce qu'il n'y a que là où on peut parler de ça, et c'est là où c'est extrêmement vivant. Dans la complexité, du vrai, du faux, du pfff. Au moins, on est là et on sait qu'on bricole, on sait qu'on met des sparadraps partout, on sait que ça va pas, on sait qu'on n'a pas dit l'essentiel, on sait qu'on va crever et que ça sert à rien, que c'est absurde. C'est scandaleux. Moi, je pense qu'il y a un vrai scandale de la mort. Mais sourions-en. C'est tout ce qu'on peut en faire.
C'est sûrement nous les héros que je préfère toujours dans son écriture, pour une raison assez simple, qui est que les deux grandes thématiques, les acteurs en tournée ou la thématique métathéâtrale et la thématique familiale, dans cette pièce-là, il y a les deux et elles se rencontrent. Donc finalement, c'est pour moi, c'est le point de croisement absolu. Je pense pas que ça se discute. Hein, je pense pas que le Pays lointain soit véritablement une pièce de théâtre. Je pense que c'est une sorte de roman dit. Il y a toujours ce rêve du cette vénération pour la forme romanesque, aussi à une époque où les auteurs de théâtre vivaient aussi le roman comme une forme noble par rapport à l'écriture théâtrale. La vraie pièce de théâtre, c'est juste la fin du monde. Cette dernière pièce là elle ressemble beaucoup à un objet testamentaire. Je me demande s'il était sur le point de la monter. Est-ce qu'il l'aurait fait avec des coupes? Quel était exactement son but sur le Pays lointain?
C'est les questions. Il est mort 15 jours après.
Elle était en projet quand
oui,
même.
Oui, il devait la monter. Absolument.
Moi, je trouve aussi que dans le Pays lointain, sa dernière pièce, je trouve aussi qu'il se sert du théâtre pour raconter cette histoire. Il se sert, pour moi, je l'associe forcément à une troupe d'acteurs, même si on fait pas de parallèle entre sa vie et l'histoire de Louis, c'est pas le problème, mais je trouve qu'il se sert vraiment, c'est comme ça que je la vois, c'est comme s'il se servait d'une troupe de théâtre pour essayer de raconter l'histoire de Louis. Alors forcément, il y en a un qui va devoir jouer Louis, l'autre Antoine, etc. Et je trouve ça, je trouve ça passionnant de le travailler dans ce sens-là, parce que vraiment, il se sert, alors c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le vrai, le faux, le fait qu'il dénonce pour moi que ce sont des acteurs qui vont jouer des personnages, et qu'il le dit à plein de reprises, et qu'il y a des rapports au public incessants qui signifient bien au public que ce qu'ils sont en train de voir, c'est du théâtre, c'est faux. Mais en même temps, c'est tellement faux que c'est plus vrai que la réalité. Et que pour moi, c'est comme ça que j'envisage cette pièce-là, alors d'autant plus qu'elle est très heurtée par rapport au juste la fin du monde, où là, on le voit dès le prologue de la pièce, son projet, il va pas forcément le mener à bien, parce que ses personnages qui interviennent, ses amants, ses morts, etc., vont faire en sorte, comme comme vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'il donne la parole à tout le monde, mais il va pas forcément le mener sereinement, son projet, cet homme-là, Louis, qui revient. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est de cette du fait de laisser ces personnages-là, des acteurs en quête de personnages autour, mais qui veulent peut-être plus que ce qu'on leur avait promis dans le rôle, et qui vont intervenir et qui vont rendre le projet, qui vont l'accidenter et qui vont le rendre du coup vivant. Enfin, moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup dans ce projet, voilà.
Jean-Luc, c'était quelqu'un de vraiment qui avait vraiment beaucoup d'humour. Moi, je pense que une des raisons, par exemple, je pense que c'est une chose qui le faisait rire d'écrire une pièce, où quand il revient, il est là. Enfin, pour l'idée, quand il y a un petit texte où il dit « quand je serai très heureux quand je reviendrai », il y a cette idée qu'on se met en scène quand on a disparu aussi, une espèce d'humour encore une fois de plus. C'est-à-dire quand on a une, j'aime pas tellement le mot ironique parce que je trouve souvent on a une espèce de chose qu'on garde en réserve dans l'ironie. Enfin, je sais pas bien l'exprimer. Alors, je trouve que c'est comme on remet une couche d'humour et on a l'humour sur son humour. Mais par exemple, il est là. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est vivant aussi. Lui mort, son théâtre est encore plus vivant parce qu'il parle tellement directement comme si c'était lui. On croit l'entendre et puis il nous dit des choses directement. Il dit je vous aime pas, de toute façon vous allez souffrir plus longtemps que moi, hein. Voilà, oh, ça va, hein, pas de problème. Voilà, et il marche sur la scène et il dit, je marche sur la scène, je reviens. Voilà. Donc il y a aussi j'aime pas bien ce mot-là, mais quand même, il y a quand même une idée presque de mise en scène de sa propre disparition et de sa propre, le mot va faire plaisir à Olivier, mais c'est sa propre résurrection comme auteur de théâtre. Enfin, c'est écrit, c'est, voilà. Et c'est lui le héros aussi. Nous les héros, c'est-à-dire que le théâtre est lui-même le héros de lui-même. Voilà. Il peut pas mourir, le théâtre. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est, enfin, je veux pas envoyer ces mots, alors c'est ceux qui me viennent, donc j'en suis un peu désolé, donc je remets des guillemets, mais c'est pour parler tout à l'heure de quête de Dieu ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est comme, il y a cette idée que le théâtre, c'est comme une religion, c'est le Dieu, c'est le théâtre, et c'est la raison de vivre, et c'est ça, le théâtre va changer le monde, et voilà, enfin, je crois que tout ça, c'est, Il y a une chose très très forte de cette manière de lui d'exister dans la fiction, puisque la fiction est vraie. Si la fiction est vraie de sa vie, ça veut dire que quand il revient sur le théâtre, c'est vrai aussi. C'est terriblement troublant.
Peut-être si vous avez des questions dans la salle, il reste un peu de temps.
Religion ça c'est une question à tous les metteurs en scène, c'est comment on met en scène tous ces doutes et ces hésitations, parce que je fais pas encore bien la différence, et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre sur scène, parce que je me souviens d'une mise en scène de Jean-Charles Mouveau de juste la fin du monde l'an dernier qui avait complètement rendu la parole très dynamique et pas mis en évidence les hésitations, mais le doute subsiste, alors comment on le met en scène?
Non, c'est peut-être une chose que j'ai dite un petit peu rapidement. Après tout, le Soulier de Satan, on a pensé que c'était un roman théâtral jusqu'à la mise en scène d'Antoine Vitesse. Je pense que les mises en scène qui ont été des grands succès du pays lointain, même si tu avais fait quelques coupes, toi, François, n'étaient pas tout à fait des intégrales. Je ne sais pas. Je pense que ça vient peut-être du fait que moi, je connaissais déjà juste à la fin du monde comme matrice, et qu'à la lecture de ce texte-là, j'ai eu un peu l'impression qu'il n'y avait pas la même énergie dramatique, où je ne peux pas m'empêcher de voir la pièce et puis les morceaux qui l'entourent. Ceci dit, et puis aussi parce que je crois que presque dans la version qu'on avait fait sur France Culture aussi était une version avec des coupes. Oui, je peux pas m'empêcher de voir ça comme ça, comme une pièce dans laquelle l'énergie dramatique est inégale, mais encore une fois, c'est peut-être subjectif. Faudrait peut-être que je le relise.
disais qu'il y avait plus de personnages et donc il y avait une comparution qui était renforcée. Et dans ce sens-là, peut-être qu'on sentait plus au contraire l'énergie dramatique. Non,
oui, moi j'avais eu une déception, mais elle est très personnelle. C'est que avec Jean-Luc, c'est une chose un peu étrange chez cet homme. Il crée un rapport absolument personnel avec chaque personne, ce qui fait que chacun a connu une facette de lui totalement différente. Donc moi j'étais réservé à la question de la nuit, un garçon, tous les garçons, les guerriers et autres villégiatures des bars cuir parisiens, plus la question religieuse. j'avais cette spécificité-là, donc je parlais beaucoup avec lui du fait de la difficulté d'écrire sur ce thème de la nuit, du sadomasochisme, qui est peut-être pas il y a 15 ans encore des thématiques aussi devenues aussi banales, aussi supermarché. Et donc j'avais vraiment espéré que dans Le Pays lointain, ce soit abordé, comment dire, avec la même violence et la même passion qu'il pouvait mettre dans son discours. Donc j'avais eu une déception par rapport au traitement de Un guerrier, tous les guerriers et autres personnages nocturnes. Donc c'est peut-être effectivement la vision la plus subjective que je puisse donner en disant que c'était un roman testamentaire et pas une pièce de théâtre.
Paradoxalement, c'est intéressant aussi quand tu dis que la pièce qui t'intéresse le plus, c'est nous les héros, où ça mêle la famille et la famille qu'on choisit, et donc la famille dont on hérite, et le pays lointain, justement, mêle ces deux familles. Absolument. Comme dans Nous les héros, puisqu'il y a la famille
et je trouve, si je peux permettre,
la troupe, au fond.
C'est aussi dans cette pièce-là, c'est parce que, aussi, je crois que pour la première fois, il les réunit dans une même histoire, et c'est parce qu'il retourne dans sa famille, et c'est pas d'ailleurs un hasard, c'est que une fois qu'il est rentré dans sa famille, ces personnages-là ressurgissent. Comme si plus le personnage était impliqué dans la famille, plus ses pensées, parce que ça peut être aussi des pensées, des projections, ils sont là, mais ils sont pas là, c'est dans sa tête que tout ça se passe, que plus il est dedans, plus il est dans sa famille naturelle, plus sa famille choisie ressurgit et prend de l'emprise, après ils vont disparaître peu à peu pour laisser place à la famille. Je veux dire juste un truc sur l'hésitation. Je crois qu'elle est écrite et que c'est, enfin, on s'en rend compte en travaillant dessus que c'est pas la peine d'en rajouter une couche finalement. Que c'est écrit, donc il faut pas le jouer en fait.
Non, déjà le dire est la première difficulté, exige une certaine virtuosité. Ça produit de la virtuosité parce que ça produit du chant. Les incises aussi.
Parce qu'il y a, oui, il y a non seulement les précisions, mais après il y a les incises. Quand vous avez une phrase et puis qu'il y a un paragraphe comme ça, puis qu'on revient au sujet, il faut que l'acteur il sache quand même. Oui, enfin, le mot virtuosité, ça c'est. Enfin.
Donc il faut être sur la langue. Il faut être sur la langue. Si en plus on rajoute effectivement du sous-texte à tout ce sous-texte dit, là c'est vraiment totalement inécoutable.
Et malgré tout, je trouve qu'il faut se méfier de la virtuosité aussi, parce que après, ça peut devenir aussi un savoir-faire et ça devient très maîtrisé, très machin, etc. Mais du coup, voilà, on perd aussi en humanité. Enfin, que c'est pas non plus qu'un numéro d'acteur qui montre au spectateur à quel point il maîtrise la langue de la garce, mais qu'il faut aussi faire oublier ce travail-là quelque part pour que les gens entendent vraiment ce qu'il y a à entendre.
Mais je crois que, après, c'est vraiment des goûts et des choix subjectifs et esthétiques, etc., de l'un et de l'autre. Mais je crois que ce qui est très important, enfin, c'est comme ça que moi que je l'entends, c'est que c'est des adresses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe. C'est que chaque fois, un personnage parle à un autre personnage et veut, et quand on parle, comme dirait l'autre, dire c'est faire, on veut obtenir quelque chose de l'autre. Être compris, être admis, être aimé, enfin tout ce qu'on veut, et que chaque chose qui est rajoutée, c'est pour. Alors après, pour, ça se joue de mille façons, et c'est adressé. Moi, je pense que c'est pour moi le moteur. C'est effectivement, quand ce que disait François, c'est terrible pour les acteurs. Il y a un début de phrase, 150 parenthèses, et la fin de la phrase qui est en bas de la page, et on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Si pour l'acteur au démarrage, il ne sait pas ce qu'il veut dire, et après, Du coup, ça devient de la littérature, là, pour moi. Parce que c'est plus vivant, c'est plus de l'action.
Mais en même temps, c'est de la littérature, c'est surtout pas naturaliste.
Absolument.
C'est-à-dire que c'est vraiment du théâtre, une langue de théâtre particulière, et je crois, alors là, pour le coup, c'est ça que je crois qui est passionnant pour les acteurs, en tout cas moi, dans les discussions que j'ai avec les acteurs, c'est alors pas vraiment un théâtre, pas du tout, du tout, du tout psychologique. C'est-à-dire, si l'acteur, il a une chose à dire et qu'il s'accroche avec, vu le texte où il l'emmène, de toute façon, la psychologie, il faut oublier, quoi. Donc ça, c'est très important parce que c'est quand même une langue totalement artificielle, mais effectivement, qui va demander une vérité immédiate de l'instant et tout en gardant le sens. Donc c'est vrai que c'est le cœur même du théâtre. Je voulais citer juste parce que en parlant justement, enfin, je suis vraiment d'accord sur l'idée qu'il y a quasiment jamais personne parle tout seul. Je crois qu'il y a, enfin, je demande à comme ça de mémoire, je vois pas un seul moment où le personnage s'adresse pas à quelqu'un, puisque notamment le spectateur, si je m'adresse à vous quand je vous parle, ça a autant de valeur que je m'adresse à son partenaire. Il y a cette réplique sublime aussi, si on l'oublie, d'Antoine dans Juste la fin du monde, qui dit, mais tu sais, si je dis rien, des fois c'est parce que je voudrais montrer l'exemple. C'est que même le fait de se taire, c'est aussi un acte actif. Mmh. Voilà. C'est une réplique sublime.
Oui, moi je pense pas qu'il y ait des je pense pas. Voilà, on se comprend pas bien sur le mot hésitation. Je pense pas qu'il y a de l'hésitation. Il y a chez Lagarce, il y a tout dans son écriture, c'est ce que j'appelle de la pensée en action, c'est-à-dire d'être à un moment donné le plus juste, le plus près de la vérité au moment où cette vérité doit être dite. Je trouve qu'il y a un travail de non seulement de mémoration, mais il y a un travail, comment dire, de creuser la langue au plus près pour être sûr d'être le plus, comment dire, plus vrai de ce qu'on a envie de dire. Et c'est une langue au travail d'ailleurs. Et je pense que l'acteur, il est toujours, obligé de, creuser la terre des mots pour arriver à faire fonctionner la langue. Je trouve que c'est une langue très. Moi, je m'inscris assez en faux quand on dit que c'est une langue littéraire. C'est une langue très orale. Enfin, l'oralité est présente tout le temps quand nous parlons et quand nous cherchons à être précis. Nous avons nous-mêmes nos hésitations. Enfin, on a tout le temps ça. Et donc, au moment où je vous parle, je l'ai aussi. Et voilà, la matière du théâtre est là tout le temps chez Lagarce.
C'est une langue écrite. Pour peut-être pas utiliser le mot littéraire, c'est comme il cite, c'est une langue écrite. C'est pas un magnétophone, quoi. C'est écrit. Non.
C'est pas naturel. Je crois qu'à la différence, c'est là où je rejoins un peu François, c'est que on ne peut pas la jouer non plus comme on hésite là, quand on est en train de parler, parce que sinon, malgré tout, ça reste du bavardage et on est relativement calme. Quand on parle là, en ce moment, même si on cherche ses mots parfois, etc. Et que là, ça demande, parce que la parole naît toujours de cette absence, parce qu'il y a un traumatisme à la base, parce qu'il y a 20 ans d'absence, et que les personnages ont eu le temps d'accumuler des choses, des pensées, et puis quand la personne revient, tout ça ressurgit, donc il faut les mettre en ordre. Mais c'est là où encore, c'est encore plus difficile à travailler, passionnant, c'est qu'il y a à la fois une construction, j'allais dire, un peu rationnelle, parce qu'on a eu le temps de méditer des choses, mais en même temps, il y a l'émotion de revoir la personne, qui fait que tout ça se confronte et se heurte, et que c'est pas facile, et que ça cherche, mais que ça avance malgré tout, tout le temps, mais la nécessité doit être là à la base, sinon...
Une question là-haut ?
Oui, non, mais je voulais revenir un peu sur la notion de théâtre bourgeois, la famille. Je pense, enfin, pour moi, quand je lis ou quand j'interprète Jean-Luc Lagarce, c'est plutôt utiliser les codes du drame bourgeois pour le détrousser et le retrousser. C'est-à-dire que chaque individu qui est, que ce soit mère, famille ou président ou je ne sais pas, c'est utiliser effectivement une langue qui ne peut pas se définir, comme vous l'avez déjà dit. Et je me disais, en travaillant, qu'en fin de compte, toutes ces personnes, tous ces individus qui sont des êtres de théâtre, des êtres de papier, peut-être avaient une conscience tragique qu'ils ne pouvaient pas définir, tout en étant dit dans l'humour. et que c'est à force de vouloir définir quelque chose de potentiellement que l'on pourrait être, avoir en soi, tout à chacun, dans notre vie de tous les jours, et que cette conscience tragique à jamais perdue, ne pouvant pas se définir, il faut bien avoir de l'humour, sinon on meurt. Et la mort, effectivement, c'est la seule chose qui reste encore peut-être sacrée grâce à Lagarce, peut-être qu'elle ne le sera plus. Et ce que je trouve très 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 fort, c'est qu'il nous propose des notions de biographie dans lesquelles chacun peut se reconnaître, parce qu'il n'y a pas d'hégémonie. Le père est comme ça ou la mère est comme ça, rien n'est surdit, alors que Dieu sait si dans le drame bourgeois c'est surdit. Et donc le fait que ce soit en drame bourgeois, je dirais moi, détroussé, retroussé, retourné, fait que on peut à la fois se reconnaître, parce que c'est vrai que c'est un théâtre de reconnaissance, et en même temps se poser les questions sur justement cette notion de conscience tragique à jamais perdue. Moi, c'est là où je me reconnais quand j'interprète la guerre, c'est ce que je cherche dans, à travers un rôle. Qu'est-ce qui peut se dire, qu'est-ce qui ne peut pas se dire? Et quand il dit « je cacherai, je ne me cacherai pas, je cacherai », c'est quelque chose qui est enfoui en chacun de nous et que chacun ressent, parce qu'il y a la parole du théâtre, la parole ludique et les faits de réel. Voilà comment je vis la guerre. Mais c'est pour répondre surtout au drame bourgeois, qui n'en est pas un.
Si je peux revenir sur le mot bourgeois, parce que je pense que c'était pas péjoratif, hein, d'ailleurs, dans la bouche d'Olivier.
Non, mais j'entends pas péjoratif.
Oui, bien sûr. Mais ce que je dirais, moi, ce que, pour aller continuer ce que vous dites, serait bourgeois péjorativement ce qui s'arrête, ce qui est défini, ce qui se pose et qui se complète dans sa définition. Et que, effectivement, en tout cas, chez Lagarce, c'est tout le temps en tremblement. C'est-à-dire qu'on aimerait se poser quelque part, et c'est insupportable parce que l'identité, de toute façon, explose, qu'on ne sait pas qui on est, soit dans ses relations aux autres, etc., etc. Et c'est vrai que le pays lointain, c'est le père, la mère, et quand il y a des prénoms, ils sont tellement banals, tellement simples, enfin tellement, c'est un peu comme les noms de Vinavert, enfin on a l'impression que c'est des noms pris presque dans l'annuaire. C'est effectivement, donc c'est n'importe qui, Louis, moi je disais souvent à l'acteur, c'est lui.
C'est aussi redonner qui. Redonner une noblesse à des êtres, disons, la banalité de quelqu'un, oui. Et redonner une noblesse, justement, à travers une langue. Une langue que seule Lagarce pratique, mais dans laquelle on peut se reconnaître.
Oui, bien sûr. Par exemple, on discutait avec Philippe tout à l'heure sur le cynisme, par exemple. Que moi, parfois, ça m'est arrivé dans des spectacles que j'ai pu voir sur des pièces de Lagarce, où des personnages sont bêtes. Et ça, je trouve ça insupportable, parce que je pense que il n'y aurait jamais eu ce regard, enfin, je sais pas, je me tourne vers les personnes qui l'ont un peu connu, mais je pense que, par exemple, souvent dans Dernier remords, on l'oublie, le personnage d'Antoine, celui qui est représentant en bagnole, est souvent joué comme le pauvre type, le beauf de service, alors que je trouve que c'est méprisant pour ce personnage-là, qui ne dit rien de plus bête que les pseudo-intellos à côté, qui sont beaucoup plus lamentables que lui, en général, parce qu'au moins, lui essaie de parler, d'aller vers les gens, il est curieux des autres, ce qui n'est pas le cas des autres. Et je pense que en plus, vu les origines sociales de Lagarce, je vois pas pourquoi cet auteur aurait le moindre mépris pour des gens simples qui essaient de rencontrer les gens à l'endroit où il est. Et ça, là, pour ça, il n'y a vraiment aucun cynisme et aucun mépris pour les gens. Ça n'empêche pas l'humour.
Dans la définition que Céline, quand Céline dit, il y a que Proust et moi qui ayons du style, mais il faut faire attention à la définition qu'il donne du style. C'est-à-dire qu'il oppose le style, finalement, au français. C'est-à-dire que pour Céline, il y a l'invention d'une langue. C'est pas simplement reprendre le français, immuable, inchangé, cristallin, avec bien sûr tous ses présupposés, chrétiens ou métaphysiques. Pour Céline, le travail de l'auteur, c'est d'inventer une langue. Inventer une langue. Sans quoi il se trompe probablement sur Proust, parce que je crois que Proust, au contraire, écrivait en français. Il aurait raison, par exemple, il aurait bien plus raison de dire Novarina a du style, dans cette définition-là. Je crois que ce qui est plutôt propre, au contraire, à Jean-Luc, encore une fois, c'est pas pour dire le contraire, hein. C'est pas pour faire des polémiques idiotes, c'est justement qu'il écrit en français. C'est peut-être un français particulier, mais c'est vraiment, surtout dans son temps, il y a un choix du français et d'un français classique. Il aurait pu rentrer à l'Académie française autant que Genet. Hein, autant que Genet, c'est-à-dire dans le choix d'un français d'un français très rigoureux. Si on prend le français de Novarina, c'est quand même un français qui met beaucoup plus à mal la syntaxe ou même la sémantique, puisqu'il invente des mots.
Oui, en même temps, chez Lagarce, il y a une pauvreté de vocabulaire, par exemple, qui est effrayante.
Mais chez Racine aussi.
Oui, c'est exactement.
C'est propre au français.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est aussi étonnant. Non, parce que par rapport à Novarina, on est très loin du baroque, de la réinvention, du néologisme. Il prend presque une langue vraiment rade et pâquerette. Et comment, derrière cette apparente pauvreté, c'est d'une sophistication monstrueuse et extraordinaire. Je suis pas sûr que la syntaxe, c'est pas toujours très très bien écrit. Pas toujours d'un très très bon
sens. La syntaxe
français.
Est complexe, ouais. Mais elle reste, à mon sens, quand même, il n'y a pas à proprement parler, au sens de Céline, l'invention d'un style. Il n'y a pas d'utilisation de franglais, il n'y a pas de sémantique étrangère, il n'y a pas de, même chez Claudel, il y a une rupture de la syntaxe beaucoup plus délirante. Là, la syntaxe est compliquée, mais tu veux que je m'arrête?
Juste une dernière question.
Moi, je voudrais juste finir sur une boutade, puisqu'on me fait signe qu'il faut libérer la salle. Il n'y a que les messieurs qui montent du Jean-Luc Lagarce?
Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours, je suis une fille.
Heureusement, non. Je connais une certaine Ghislaine Drahi qui a monté Les Serviteurs il n'y a pas très très longtemps. Non, bien sûr que non. Heureusement qu'il y a des femmes qui montent.
Oui, non, mais je crois que c'est proportionnel. Je crois que c'est proportionnel à la réalité des metteurs en scène.
Socio-professionnels.
Heureusement, le monde du théâtre est resté machiste.
Je ne peux pas comprendre que sur la gare, c'est ça.